Place Info.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Informés. Et ce soir, à l'heure qu'il est, je sais ce que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes déjà rentré chez vous, vous nous écoutez peut-être dans votre cuisine, ou mieux encore, vous nous regardez sur le canal 27 de votre TNT. Bref, vous êtes déjà en week-end, soit c'est l'autre, vous êtes encore coincé dans les embouteillages et vous trouviez le temps long, très long, avant les Informés. Mais ça y est, on y est, nous sommes ensemble pendant une heure avec quatre invités qui, eux aussi, ont bravé les embouteillages pour rejoindre ce studio de la Maison de la Radio. Bonsoir Hélène Pilichowski.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique, face à vous, Mariam Pirzadeh, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Journaliste chroniqueuse à France 24, Bruno Dive, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Éditorialiste à Sud-Ouest, vous êtes également le président de l'association de la presse ministérielle. Et puis Étienne Gérard pour compléter ce quatuor. Bonsoir à vous Étienne.
Bonsoir Olivier.
Journaliste politique à Marianne, avec ce soir évidemment un grand sujet, ce conflit social qui secoue notre pays. Allez, c'est parti pour une heure de débat.
Une gare de Lyon quasi déserte ici. Le trafic est très perturbé, un train sur cinq est en circulation. Beaucoup d'usagers se sont organisés pour être sûrs d'arriver à destination.
Mon train il est à midi, là c'est 9h30, donc c'était juste pour assurer le coup et potentiellement monter dans un train plus tôt si c'était possible.
Quand j'ai pris le premier TGV, j'ai pas pris de risque.
Voilà. C'est bon, vous êtes arrivé.
Ouais, voilà, merci.
À Rouen, les annulations de train et les retards ont également obligé les usagers à trouver d'autres solutions.
Je ne peux pas aller jusqu'à Paris. Et du coup, mon Thalys qui allait à Amsterdam part de Bruxelles au lieu de Paris. Donc du coup, je vais prendre ma voiture.
Voilà pour cet extrait de nos amis de France Télévisions, de ce reportage de nos amis de France Télévisions sur évidemment le maelstrom dans les transports publics et dans les transports tout court. Je vais vous poser la question à 100 milliards de dollars. Combien de temps, à votre avis, Mariam Pirzadeh, ce conflit peut durer?
Alors, effectivement, c'est la question à 100 000 dollars. Je pense qu'il est prévu pour durer. En tous les cas, les personnes, les grévistes indiquent qu'ils iront jusqu'au bout. Hein. Ils ont prévu, effectivement, de rester dans la rue jusqu'à ce que cette réforme soit annulée. On parle même d'aller jusqu'aux vacances de Noël. Donc, je pense que ce mouvement peut durer. En tous les cas, la semaine prochaine sera cruciale puisque Édouard Philippe doit parler. Donc, de là dépendra effectivement de la durée du mouvement.
Vous vous mouillez pas beaucoup, quoi.
Mais non, bon. Parce que moi, je pressens qu'en fait, il va durer ce mouvement et j'ai l'impression de revivre le même mois de décembre que l'année dernière avec les boutiques qui étaient fermées. Et voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a assez peu d'optimisme pour que ce mouvement...
Votre flair, c'est que ça va durer.
Oui.
Étienne Gérard.
Il y a une date clé, c'est celle du 20 décembre. D'ici là...
Et d'ailleurs, il se passe quoi le 20 décembre?
C'est les départs en vacances.
C'est le début c'est des les vacances
départs,
scolaires.
Exactement. Voilà. C'est les départs pour les vacances de Noël, avec un risque. S'il y a toujours des grèves, les gens pourraient ne pas pouvoir partir en vacances, ne pas pouvoir aller où ils avaient prévu d'aller. Conséquence, la grève pourrait perdre de nombreux points dans l'opinion, puisque les grévistes seraient perçus, à raison pour le coup, factuellement, comme responsable du fait que un certain nombre de gens n'ont pas pu partir en vacances, ont dû annuler leur séjour, parfois perdre de l'argent. D'ici là, il y a aucune raison, en réalité, pour l'instant, pour que à la SNCF ou à la RATP, on cède. On a mis en place des caisses de solidarité qui permettent de compenser le manque à gagner des journées de grève. À la SNCF, on a le souvenir de l'échec cuisant de l'année dernière. On est extrêmement motivé. On n'a pas envie de lâcher. Donc d'ici au 20 décembre, il y a toutes les raisons, puisque le gouvernement a décidé pour l'instant de ne pas lâcher non plus, pour que ça continue. On se reparle le 20 décembre, où
mais
là,
décembre,
il y aura
vous,
une décision délicate à prendre.
Bon, alors Étienne Gérard, vous l'avez vu, Hélène Pilichowski, il se mouille un petit peu plus en disant, voilà,
jusqu'au 20 décembre. Excusez-moi, mais j'ai oublié ma boule de cristal, je suis partie
Oui, mais c'est
rapidement.
Ça aussi, les informés. Il faut savoir lire dans le marc de café. Bon, en tout cas, évidemment, c'est une question, c'est pour ça que je disais, c'est une question à 100 milliards de dollars, parce que personne n'est en capacité
euro, comme le point de retraite,
le dire, mais vous avez quand même... Vous avez du flair, Hélène Pilichowski, c'est pour ça qu'on vous invite.
D'accord. Mais là, en l'occurrence, je ne suis pas très optimiste. Parce que si on flaire ce qui se passe dans la rue, on n'a pas l'impression qu'on soit en phase de pacification du conflit. Pas du tout, du tout. Et ce qui est arrivé ces deux dernières semaines, à peu près, c'est qu'effectivement, tout le monde s'est senti concernés par cette réforme de la retraite, alors qu'auparavant, on pensait que c'était uniquement l'affaire, si vous voulez, des régimes spéciaux. Le gouvernement pensait d'ailleurs jouer là-dessus en se disant les Français vont bien comprendre que les quelques privilégiés que l'on a, SNCF, RATP et quelques autres, si vous voulez, bah, eux, on veut la justice, hein, on veut un régime plus égalitaire, etc.
Et jouaient les Français les uns contre les autres ?
Un petit peu, bah, c'était normal, si vous voulez, pour faire accepter, bien sûr, en se disant ils ont des privilèges qui coûtent de l'argent à l'État, donc aux contribuables, donc on va essayer de corriger ça. Donc tout le monde voyait ça plutôt d'un bon œil. Ça paraissait tout à fait honnête et légitime, si on veut dire. Et puis, tout d'un coup, toute la béance, si vous voulez, de cette architecture qui, en fait, avait des tas d'implications pour finalement presque tous les retraités. On avait oublié juste, ah ben les fonctionnaires, au fait, oui, c'est un régime spécial, les fonctionnaires. On avait un peu oublié.
La caisse des avocats.
Bon, voilà, les libéraux, les caisses, etc., l'AGIRC, l'ARCO, tout le monde, et tout d'un coup, tout le monde a dit, alors il y a des simulations invraisemblables qui ont fleuri partout avec beaucoup de fake news, on le sait aussi, mais il n'y a pas eu de réponse du gouvernement, parce que s'il y avait des fake news, quand on a dit les mères de famille sont celles qui vont le plus trinquer, c'est effrayant pour tout le monde, si vous voulez. Mais il y a eu cet organisme-là qui a publié des simulations incroyable, en disant plus vous aurez d'enfants, plus vous serez pénalisés, enfin l'inverse de ce qu'on connaissait. Donc un vent de panique a soufflé sur tout le monde. Donc l'opinion aujourd'hui, il y a peu.
Bon, alors donc ça va durer un petit peu. Je veux l'opinion de Bruno Dive quand même, avant l'info. Alors, Bruno Dive, vous sentez le truc comment ?
Moi qui suis un peu plus âgé que ma voisine, j'ai plutôt l'impression de revivre décembre mais 1995.
Je m'en souviens aussi, de décembre 1995. Je m'en souviens aussi.
Ne vous vieillissez pas.
Les scènes d'embouteillage aujourd'hui, c'était tout à fait ce qu'on avait vécu à l'époque. Cela dit, j'aurais tendance moi à penser que ça va durer un petit peu moins longtemps. Je ne veux pas non plus évacuer la question, mais ça va durer combien de temps ? Ça dépend des secteurs aussi. Je pense que dans l'enseignement, on va très vite, ça va très vite s'estomper.
Est-ce que c'est pas la SNCF qui décide ?
Alors, ce qui bloque, c'est la SNCF, c'est la RATP. Là, on est parti au moins pour une semaine. Il y a le rendez-vous de mercredi prochain. Quand bien même, on va en reparler des concessions sur les régimes spéciaux. C'est quand même parti pour durer. On est au moins parti pour une bonne semaine encore de blocage.
Et nous, on est bien parti pour continuer à débattre de ce dossier, juste après l'info, puisqu'il est 20h10, Steven Goyer.
Willy Bardon, condamné à 30 ans de réclusion criminelle, verdict de la cour d'assises de la Somme dans le procès autour de la mort d'Élodie Kulik en 2002. Une condamnation pour viol, enlèvement et séquestration suivie de mort. Le projet de réforme des retraites présenté en intégralité dès mercredi, annonce d'Edouard Philippe, le Premier ministre, dit vouloir agir sans brutalité avec des transitions progressives. L'intersyndicale, elle, appelle à une nouvelle journée d'action dès mardi. Seulement 10 à 15% du trafic des trains assuré ce week-end. La SNCF attend les mêmes niveaux de perturbations que ceux d'aujourd'hui. Un TGV sur 6, un Intercité et un TER sur 10 devraient rouler. Autre conséquence, la suspension des cours dans deux universités bordelaises. Décision de la direction. Les étudiants avaient hier décidé d'occuper et de bloquer certains sites. Politique, la Terre se meurt. L'une des pancartes brandies dans le défilé à Madrid pour réclamer des actes contre le réchauffement climatique au pays rassemblé pour la COP25. Des milliers de personnes mobilisées dans la capitale espagnole, notamment la jeune militante Greta Thunberg. Championne en titre et déjà éliminée, les handballeuses françaises sortent du mondial en phase de poule après leur défaite 20-18 face au Danemark.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
Et la une ce soir, ce conflit social hors norme. Parlons de la stratégie du gouvernement avec, en première ligne, le Premier ministre, Édouard Philippe. Premier ministre qui s'est exprimé cet après-midi sur le perron de l'hôtel Matignon. Je vous propose de l'écouter.
Je présenterai ensuite, mercredi prochain, à 12h, au Conseil économique, social et environnemental, qui est la chambre du dialogue social et des corps intermédiaires, l'intégralité du projet du gouvernement. Le débat pourra ainsi s'organiser autour de propositions claires, qui prendront en compte bien des propositions formulées par les organisations syndicales, et qui garantiront aux Français la justice, la solidité, la solidarité de leur système de retraite.
Voilà, ça c'était la grosse annonce de l'après-midi, Étienne Gérard, mercredi. On aura donc enfin les détails de la réforme. C'est quand même important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de zones d'ombre.
évidemment, c'est ultra important. C'était un peu le joker du gouvernement qui attendait de voir comment allait se passer la première journée de mobilisation. La journée, c'est un relatif succès pour les syndicats. Du coup, le gouvernement sort ce joker. Ça peut éteindre l'incendie chez une partie des gens qui se sont mobilisés, notamment chez les enseignants. C'est un des objectifs du gouvernement de rassurer les enseignants. Ça peut aussi cristalliser les revendications et la mobilisation et amplifier la mobilisation, ou radicaliser la mobilisation dans le sens où, une fois le projet présenté définitivement, il n'y a plus d'espoir, notamment pour les syndicats réformistes, de peser sur la ligne du gouvernement la sur CFDT, cette question. Quoi, ouais. Et voilà, on peut décevoir aussi. Ouais. En présentant trop tôt les conclusions présentées comme définitives, on peut décevoir.
Donc là, c'est un peu trop tôt, c'est ce que vous nous dites là ?
Non, je ne vous dis pas que c'est trop tôt, je vous dis que le gouvernement sort son joker et que c'est un fusil à un coup et qu'il y a intérêt à vraiment extrêmement bien calibrer son coup s'ils veulent susciter une adhésion là-dessus.
Donc, Marine Perzadeh ?
Oui.
Bah oui, oui. Non, mais attendez, c'est ça, soupirer à ce point-là.
Moi, je sors mon joker,
j'ai Hélène Pilichowski qui piaffe d'impatience.
Non, mais en fait, c'est pas du tout un piaffe d'un, voilà. C'est juste qu'effectivement, moi, j'ai écouté Édouard Philippe tout à l'heure, et en fait, qu'est-ce qu'on en retient? Ça reste encore plus flou. Et à côté, face à lui, il y a les syndicats, il y a les grévistes qui, eux, veulent faire pression avant les annonces, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui va être annoncé. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne veulent pas reculer, notamment sur les régimes spéciaux, et c'est aujourd'hui ça qui met les gens dans la rue. Donc, effectivement, il y a Édouard Philippe qui monte au créneau.
Régimes spéciaux.
Sur les régimes spéciaux. Donc, à part le mot solidarité qu'il a répété à plusieurs reprises, ça, c'est vraiment le maître mot de cette réforme. Il faut être solidaire. Il appelle les Français à être solidaires.
Jamais celle de la confrontation a également dit et répété. Bah,
en fait, l'exécutif. Quand on regarde chaque exécutif qui a voulu réformer cette retraite, il y a eu très souvent un recul, parce qu'on a l'impression que ces retraites, elles sont irréformables. Et donc, on a un exécutif qui, depuis le début, depuis la campagne présidentielle, dit on ne lâchera pas, on va réformer les retraites. Et là, effectivement, Édouard Philippe le dit, les membres du gouvernement le disent également, on ne va pas flancher, on va rester droit dans nos bottes, parce qu'il faut réformer les retraites en France.
Bruno Diff, sur cette stratégie du gouvernement, l'exécutif, qui a quand même laissé planer une sorte de flou artistique autour de son projet, soufflant le chaud, soufflant le froid. C'est la bonne manière de procéder, à votre avis ?
Mais moi, je trouve que depuis cet après-midi, en tout cas, on y voit beaucoup plus clair quand même. Il y a eu
Vous trouvez qu'on y voit beaucoup plus clair ?
Ah oui, parce qu'il y a quand même deux avancées. Déjà, une sur le calendrier, c'est le cas de le dire, parce que il accélère le calendrier tout de même. Au départ, il faut pas oublier qu'il voulait parler à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ensuite, ça a été à la fin de la semaine prochaine. Maintenant, c'est dès mercredi. Donc, on voit bien qu'il y a un sentiment d'urgence et le gouvernement a compris. Pour répondre à votre question, le gouvernement a compris qu'il ne pouvait pas rester comme ça éternellement dans le flou et attendre de voir la longueur des cortèges.
Attendre le pourrissement du conflit. Quoi.
Et selon la longueur des cortèges, on va faire telle ou telle concession. L'autre ouverture, c'est... Alors moi, j'ai une lecture différente sur les régimes spéciaux. C'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Hein, parce que il dit, évidemment, on va maintenir les régimes spéciaux. Évidemment, il n'allait pas dire cet après-midi,
non,
on va retirer la réforme.
Il a quand même dit.
Mais il faut comprendre que les gens qui ont déjà...
Ça ne peut pas se faire d'un coup. Et moi, j'y vois l'ouverture le retour de la clause du grand-père, mais tout de même les régimes spéciaux continueront à s'appliquer pour un certain nombre de générations. Et je pense que là, il y a une marge de négociation pour le gouvernement. Est-ce que ça va être la moitié de ceux qui ont déjà effectué plus de la moitié de leur carrière qui pourront rester sous le système des régimes spéciaux? Est-ce que c'est un peu plus? Où va se fixer le curseur? En tout cas, je vois ce point de l'ouverture d'une marge de négociation. Alors, est-ce que tous les syndicats vont s'en saisir? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit de la CGT, par exemple. D'autres, l'UNSA, d'autres syndicats, la CFDT, même cheminots, bien sûr, peuvent être un peu ouverts à ce genre de discussion. En tout cas, le gouvernement essaie d'enfoncer un coin entre... Va essayer, parce qu'il n'a pas encore en effet dévoilé toutes ses batteries, va essayer d'enfoncer un coin entre tous les différents grévistes. Et c'est encore plus vrai des enseignants, là, évidemment. Là, on lâche beaucoup de lest pourra y revenir. C'est quelque chose qui risque de coûter très cher, d'ailleurs, au budget de l'État. Mais en tout cas, il veut visiblement, la stratégie du gouvernement, c'est d'enlever petit à petit des catégories de grévistes.
Il va lâcher du lest, Hélène Pichowski.
Ah bah oui, bien évidemment, il ne peut pas faire autrement, sinon ça n'avancera pas, ça c'est clair. Hein. Mais moi, je me demande si d'ici mercredi, nous sommes vendredi soir, il va avoir le temps de mener à bien de trouver des réponses qui puissent convenir aux différentes catégories concernées.
Mais vous ne croyez pas qu'elles sont déjà un petit peu dans les cartons ?
Non, je ne crois pas, parce qu'ils auraient pu répondre quand il y avait des choses qui sont sur la place publique, des protestations incroyables, des craintes terribles, comme j'ai dit tout à l'heure, et tout ça. Ils n'ont répondu sur rien. Il n'y a jamais rien eu de très précis, parce que c'était étonnant quand même de voir leur désarroi. C'est ça qui m'a vraiment surprise. Mais quand j'ai encore entendu Gabriel Attal, le jeune secrétaire d'État à la jeunesse.
C'était ce matin, voilà, sur France Info.
Et qui disait, en ce qui concerne les enseignants, les augmentations, attention, tout le monde n'aura pas les augmentations de salaire, etc., ce qu'on envisage pour compenser effectivement le manque à gagner des futures retraites, enfin, etc., ne concernera que ceux qui sont concernés. Alors je me suis dit, mais quelle est la différence entre les catégories d'enseignants? C'est compliqué, parce que est-ce que c'est ceux qui seront à tel niveau de leur carrière? On ne sait pas, c'est vraiment...
Mais attendez, j'ai une question. On parle beaucoup de 95. En 95, Juppé avait lâché au bout de 3 semaines.
Oui.
Édouard Philippe va lâcher au bout de 3 jours?
Lâcher, il a baissé la garde quand même, Alain Juppé, à l'époque. On va garder l'architecture générale de notre projet, mais on va faire des aménagements, on va faire la démonstration qu'on est capable de négocier et qu'on est capable de faire plier les plus rudes. À mon avis, Philippe Martinez, il n'est pas prêt de lâcher, lui. Hein, parce qu'il a,
personne n'est prêt de lâcher.
Il a une revanche.
On va parler des syndicats, de la revanche de Saint-Cabrino. Un petit mot de commentaire.
Juppé, il a lâché au bout de 3 semaines, il a capitulé, mais il a capitulé partiellement. Il a lâché sur la réforme des retraites et des régimes spéciaux, en effet, pour sauvegarder son plan de sauvegarde, son plan de sur la sécurité sociale.
Parce que Bruno Dive, c'est l'un des spécialistes.
Je suis un biographe. Non, mais j'ai un peu. On a oublié ça.
Et demain, les informer. Édouard
Philippe, on y reviendra après.
Il est 20h20 sur France Info. C'est l'heure de l'info avec Steven Goyer.
Un week-end toujours très compliqué. Côté transport, seulement 10 à 15% du trafic assuré par la SNCF, avec une liaison sur 6 pour les TGV. Côté RATP, 9 lignes de métro resteront totalement fermées à Paris. Des perturbations aussi côté RER. Il ne reviendra pas sur la disparition des régimes spéciaux, mais Édouard Philippe dit vouloir agir sans brutalité pour le projet de réforme des retraites. Ma logique ne sera jamais celle de la confrontation, a expliqué le Premier ministre. Pas de quoi rassurer les contestataires. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action mardi prochain. Deux mises en examen après un double meurtre dans le Loiret, celui d'une infirmière et de son patient en octobre dernier. Les deux suspects, un homme et sa sœur âgés de 40 et 33 ans, nient pour l'instant les faits. La raison de l'acte reste inconnue. Pas de vote, on jure que l'on ne s'arrêtera pas. L'un des slogans du cortège massif à Alger aujourd'hui, dernier vendredi de manifestation avant l'élection présidentielle de jeudi. Un scrutin massivement rejeté par la foule. 17e journée de Ligue 1 en ce moment, Lille mène 1-0 face à Brest. Coup d'envoi dans une vingtaine de minutes entre Nîmes et l'Olympique Lyonnais.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
On a écouté ensemble un extrait de la prise de parole d'Édouard Philippe il y a quelques instants. Alors évidemment, les réactions politiques à l'issue de cette déclaration n'ont pas tardé. Je vous propose d'écouter d'abord celle de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui était l'invité de nos confrères de BFM.
Le message n'a pas vraiment été entendu, même si le Premier ministre veut donner l'impression qu'il l'a entendu. On peut comprendre qu'un gouvernement se mêle des caisses de retraite des salariés, mais qu'il décide tout seul et sans que personne n'ait rien demandé. Une révolution absolue du système des retraites tirait un trait sur celui qui avait été imaginé à la libération alors que le pays était beaucoup plus pauvre qu'il l'est aujourd'hui, est une idée qui est une véritable provocation contre le type de république sociale dans lequel nous avons vécu jusqu'à présent.
Hélène Pilichowski, il y a une stratégie syndicale, on va en parler. Hein. Mais est-ce qu'il y a une stratégie également de la part de l'opposition, ou bien finalement est-ce qu'ils se mettent dans le sillage des syndicats en attendant finalement que le gouvernement prenne des coups?
Alors, une stratégie de l'opposition, si on voit l'ensemble de l'opposition, qui est quand même assez...
Des oppositions,
qui est assez disparate, effectivement, il n'y a pas de stratégie commune. Si, il y en a une, c'est essayer de mettre Emmanuel Macron en difficulté. Ça, c'était... Personne d'autre a des propositions vraiment intéressantes à faire. Les Républicains ont travaillé un petit peu, quand même, il faut reconnaître. Ils ont travaillé un peu plus. Mais par ailleurs, vous avez Marine Le Pen qui en profite pour dire que le gouvernement veut faire un hold-up sur les caisses de retraite. Ça, ça parle, ça marche très bien, ça parle vite et ça fait du monde, ça, pour se révolter, ça, c'est sûr. Et regardez ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qui accuse gravement le gouvernement. Donc l'opposition essaye effectivement de tirer un peu les marrons du feu, de se dire bah, attention, nous, qu'est-ce qu'on encaisse pendant ce temps-là? C'est merveilleux, c'est formidable, mais ça ne résout rien. Ça met, en fait, ça met de l'huile sur le feu.
Étienne Girard.
Jean-Luc Mélenchon, il est dans une période où il essaye de surfer sur le mouvement syndical, le mouvement social. Mais comme à chaque fois qu'il y a un mouvement social d'ampleur, et d'ailleurs il est dans son rôle, c'est normal qu'un homme politique ait une stratégie et un agenda en lien avec des événements politiques dans le pays. Cela dit, il n'est pas aux premières loges, hein, Jean-Luc Mélenchon. Il intervient sur les plateaux de télévision et dans les télévisions quand on l'interroge. Mais c'est pas un moment politique, c'est un moment...
C'est pas un moment politique.
Non, c'est un moment ouais. Des syndicats. Et on ne peut pas mettre un signe égal entre la CGT aujourd'hui et Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'adhésion totale des grévistes à la personnalité de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Ça, on peut pas le dire. Donc Jean-Luc Mélenchon, il est en embuscade, si l'on peut dire, et il est dans son rôle, mais il n'est pas aux premières loges. Hier, c'était la journée de Martinez, c'était la journée de la CGT et de Info au second plan. C'était pas la journée de la France insoumise.
Marianne Pirzadeh, c'est pas un moment politique, c'est pas un moment des oppositions politiques en ce moment.
On les entend, mais sans les entendre. En fait, on a l'impression aussi que les grévistes qui sont dans la rue ne veulent pas de leader. On va reparler des syndicats après, mais voilà, ils disent on veut faire exprimer notre colère, on est prêt à aller jusqu'au bout. Et on a l'impression qu'effectivement... j'ai pas l'impression que ce soit un moment politique.
Bruno Dive.
Moi, je crois qu'il s'est passé un événement politique assez important quand même à propos de Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est pas cette déclaration qu'on a entendue là, mais c'est une autre qu'il a prononcée hier, où il salue quand même le fait que Marine Le Pen rejoigne le mouvement social. Je crois même qu'il a parlé de son humanisme.
Il fait du pied au Rassemblement National.
Ça y est, c'est la suite de la stratégie de 2017, quand il avait refusé de choisir de se prononcer entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il fait du pied, évidemment, c'est aux électeurs du Rassemblement National qu'il essaie de récupérer, parce qu'il sait très bien que, pour l'instant, le phénomène des vases communicants se passe en sens inverse. Mais de plus en plus, il y a une espèce d'osmose qui se fait entre ces deux électorats. Il y a eu un sondage il y a un mois où on montrait que 28% des électeurs de Mélenchon ou des Insoumis au premier tour seraient prêts à voter pour Marine Le Pen au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Et par cette déclaration qu'il a faite hier, moi que je trouve quand même énorme, il encourage d'une certaine manière ce mouvement. Donc on voit bien que, on l'a vu déjà l'année dernière à l'occasion des Gilets jaunes, qu'il y a une espèce de rapprochement qui se fait entre les extrêmes.
Hélène Pilichowski, on parle de la France insoumise, il y en a un qu'on entend finalement relativement peu sur le sujet, c'est le président de la République, hein, Emmanuel Macron, qui était à Nîmes aujourd'hui pour rendre hommage aux trois militaires qui ont disparu à la suite de leur accident d'hélicoptère. Cette forme de distance, si on pouvait dire, affichée, en tout cas vis-à-vis de ce conflit social, c'est de la bonne stratégie pour lui?
Oui, je pense qu'il veut montrer.
Je vais demander à Marianne.
Je pense qu'il cherche et réfléchit au moment opportun où il doit intervenir. Ouais. Ça, c'est certain. Il doit se dire, parce qu'il sait très bien que c'est lui qui est dans la ligne de mire de tous ceux qui protestent en ce moment. Tout le monde sait vraiment. On avait le sentiment quand on a la manifestation d'hier, il y avait de l'anti-macronisme partout. Et ça, je pense que ça doit quand même l'inquiéter quelque part. Donc, il doit réfléchir. Il a ses conseillers autour de lui pour lui dire, bon, c'est trop tôt, parce que tant qu'il n'a pas de réponse précise précise, parce que quand est-ce qu'il peut intervenir? Quand il aura vraiment quelque chose qui peut déclencher, en fait, déclencher une accalmie vers se dire, bah, finalement, ce qu'il vient de nous dire, bon.
Il est en train de griller son Premier ministre.
Il l'envoie au feu. Ouais. Bah, c'est évident, mais c'est normal, c'est son rôle. Regardez pour Notre-Dame-des-Landes, il avait envoyé très bien, il avait dépêché Édouard Philippe, qui a très bien réussi, qui est arrivé un beau matin, avec, ça s'est extrêmement bien passé. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a une ampleur, et il y a l'ennemi Martinez qui veut la peau d'Emmanuel Macron, qui ne s'en cache pas d'ailleurs.
Et on va en reparler, Maria Ferzadeh.
En fait, on a l'impression que ce n'est pas... hier, dans les cortèges, il y avait effectivement beaucoup d'anti-Macron. Les slogans étaient très anti-Macron, avec notamment des images qui sont assez choquantes. On le voyait grimant Louis XVI en train d'être brûlé, Macron le président des riches. Et on a l'impression qu'en fait, l'élection d'Emmanuel Macron, il y a 2 ans, elle a fait sortir toutes les colères, toutes les rancunes. Et qu'en fait, effectivement, il met en avant son Premier ministre, il prend de la distance pour aussi se protéger, parce qu'il sent bien aussi que c'est contre lui aussi. Allez, ces manifestations.
Tout le monde veut parler. Vous allez avoir à nouveau la parole, mais on va laisser passer la météo, l'info. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie des Informés. Élodie Calac.
Un week-end maussade, les pluies arrivées par le nord-ouest s'enfoncent sur le pays ce soir en perdant de la vigueur. Demain, il restera 2 ou 3 gouttes de la Nouvelle-Aquitaine vers le centre, le Massif central, le nord-est et le Lyonnais. La plaine d'Alsace profitera de quelques éclaircies. De la Bretagne et de la Vendée vers le bassin parisien, le nord de la Seine, beaucoup de nuages mais aussi quelques éclaircies bien appréciables. Des Pyrénées vers la Méditerranée et le sud des Alpes, là vous profiterez du soleil mais vous aurez du vent jusqu'à 80 km à l'heure en Corse. Les températures seront un peu plus douces, 2 à 7 degrés souvent le matin. L'après-midi, 8 à 14 degrés d'est en ouest, 14 à 17 près de la Méditerranée. Dimanche, une nouvelle perturbation pluvieuse traversera le pays, suivie d'averses, avec beaucoup de vent, surtout à partir de la soirée sur la moitié nord. Seul l'extrême sud-est restera à l'écart et il fera un peu plus doux, 12 à 13 degrés en moyenne l'après-midi.
Élodie Calac pour les prévisions Météo France. Vous écoutez France Info, il est pratiquement 20h30. L'heure de retrouver Julie Smul pour l'info. Bonsoir Julie.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. 30 ans de prison pour Willy Bardon. C'est le verdict ce soir de la cour d'assises de la Somme. Il est reconnu coupable de l'enlèvement, du viol et de la séquestration d'Élodie Kulik en 2002. Il est acquitté pour le meurtre de la jeune femme. Willy Bardon, évacué par la police à l'énoncé de ce verdict, après avoir avalé quelque chose, peut-être un médicament, nous disait à 20h notre journaliste sur place. Près de 600 km de bouchons recensés à 18h en Ile-de-France, conséquence de la grève à la SNCF et à la RATP face à la réforme des retraites, des embouteillages aussi ailleurs en France, autour des grandes villes. Le pic de bouchons est passé, Cyril Ardo, mais la circulation reste compliquée ce soir.
Et alors, les bouchons commencent quand même à diminuer. On sent que la situation s'arrange peu à peu. 225 km de bouchons restant tout de même après avoir atteint, vous l'avez dit, les près de 600 km cumulés tout à l'heure. Les difficultés qui se concentrent principalement sur les axes les plus empruntés. Le périphérique où un accident vous ralentit en intérieur juste avant la porte de Bagnolet. La 86 également qui est chargée notamment dans sa partie nord. Et puis ailleurs en France, pas de grosses difficultés à vous signaler. À Lyon, c'était compliqué il y a encore quelques dizaines de minutes sur le périphérique, eh bien les choses reviennent à la normale.
Cyril Ardo, merci, en direct du PC Mobilité de Radio France. Les transports vont rester très perturbés tout le week-end et jusqu'à lundi inclus. La SNCF prévoit par exemple pour demain et pour dimanche un TGV sur 6 en circulation, un TER sur 10, 10% des intercités, 15% des transiliens. Amélioration à venir en revanche dans les airs après 2 jours de perturbations. Aucun vol annulé demain chez Air France, chez Transavia et chez EasyJet. Une marche pour le climat ce soir à Madrid, en marge de la COP25. Des milliers de personnes réunies dans la capitale espagnole. Greta Thunberg, la jeune militante suédoise en tête du cortège. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps, a-t-elle déclaré. Des gens souffrent ou meurent en raison de l'urgence climatique. La mémoire des crimes nazis est inséparable de l'identité allemande. Voilà les mots aujourd'hui d'Angela Merkel en déplacement à Auschwitz. C'est la première visite tweet de la chancelière allemande sur le site du camp d'extermination nazi. Florent Manaudou remporte l'argent ce soir sur le 50 mètres au championnat d'Europe de natation à Glasgow, 8 mois après son retour chez les Bleus. Un peu plus tôt, un autre Français aujourd'hui, David Aubry, a remporté le bronze sur le 1500 mètres, toujours à ces championnats d'Europe de natation. Le foot avec le début ce soir de la 17e journée de Ligue 1. Lille est en train de battre Brest à domicile 1-0. Et puis dans un quart d'heure, à 20h45, le coup d'envoi de l'autre match de la soirée, c'est Nîmes qui accueille Lyon. Et puis un mot du mondial de handball au Japon avec les Françaises éliminées aujourd'hui dès le premier tour. Les Françaises battues 20-18 par les Danoises. Elles avaient déjà perdu face à la Corée du Sud. Elles avaient fait match nul contre le Brésil. C'est le plus mauvais résultat des Bleus dans un mondial depuis 24 ans. Il est 20h33 sur France Info. Tout de suite, nous allons retrouver Olivier Delagarde et ses invités pour la suite de son émission Les Informés.
France Info, Les Informés, Olivier Delagarde.
Et toujours en compagnie d'Hélène Pilichowski, journaliste politique, Mariam Pirzadeh, journaliste chroniqueuse à France 24, Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest, et Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, avec évidemment un sujet qui domine l'actualité en ce moment, ce conflit social qui secoue la France et qui regonfle sensiblement les syndicats. Je vous propose d'écouter d'abord Catherine Perret, elle est secrétaire confédérale de la CGT.
On encourage partout où c'est décidé, dès aujourd'hui, tout le week-end et lundi, les salariés à voter la reconduction du mouvement. On sait, et vous le savez, qu'il y a déjà beaucoup de secteurs qui sont, dès ce matin, très mobilisés. Donc rendez-vous tous ensemble dans la rue le mardi 10 décembre pour une nouvelle journée de temps fort interprofessionnel, intergénérationnel, de grève, d'action, de manifestation.
Voilà pour la CGT. Puis alors de l'autre côté du spectre syndical, je vous propose d'écouter maintenant François Omeril. Il est président de la CFE-CGC.
Nous, nous sommes toujours dans le camp des opposants, on peut le dire comme ça. Après, chacun a sa méthode. Et nous avions un mandat très précis donné par notre comité confédéral, qui était de continuer à contribuer à l'expression commune sur notre opposition à la réforme telle qu'elle nous est présentée. Mais désormais, on considère, nous, que nous avons tendu une perche au gouvernement. C'est à lui de savoir la saisir avec intelligence et de revenir à la table des négociations.
Alors, Hélène Pilichowski, la journée d'hier, c'est la grande victoire des syndicats?
Ben pas encore, non, pas si vite en besogne quand même. Donc c'est, disons que effectivement la première journée a été un succès pour eux.
Mais enfin, est-ce que cette journée d'hier n'est pas déjà un succès, le fait d'avoir réussi à remobiliser?
Non, mais c'est facile en France, excusez-moi, des grandes manifestations. François Fillon s'est vanté il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui. Vous rappelez, 2 millions de personnes.
Alors. Ah, moi, voilà. Emmanuel Macron joue petit bras, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'avais
oui,
mis
petit joueur, mais enfin, petit joueur, c'est comme
voilà.
Vous
moi, j'avais mis 2 millions de personnes dans la rue, donc près d'un million de personnes. On ne sait pas exactement, mais mettons près d'un million de personnes. C'est pas extraordinaire pour la France. Moi, j'ai trouvé un petit extrait du Washington Post qui dit il n'y a aucun autre pays occidental qui a une telle tolérance pour les voitures brûlées et les vitrines cassées. Et ça, c'est vrai que tout le monde s'étonne, mais bon, c'est un petit peu notre culture, les manifestations. Donc, ce n'est pas un triomphe pour les syndicats.
Pas la même chose, quand même.
On est toujours dans l'attente, effectivement, de voir un petit peu les solutions se profiler pour toutes les catégories du pays. Finalement, c'est ça le problème. C'est, je l'ai dit, mais c'est vraiment le nœud du problème, c'est que tout le monde, ou presque, est concerné par cette réforme. Et ça, je pense que Emmanuel Macron ne l'avait pas prévu, ne l'avait pas senti. Il avait pourtant un excellent conseiller pour ses retraites qui lui a vendu cette réforme magnifique, Antoine Bozio, je crois, ouais. Qui est Antoine Bozio, c'est ça.
Ancien élève de Piketty.
Voilà, un élève de Piketty, donc il a été séduit par cette réforme qui allait révolutionner et qui serait tellement plus juste, qui est plus facile à mener, etc. Bon, peut-être que dans 20 ans, quand on aura trouvé toutes les transitions pour
vous me parlez dans 20 ans. Attendez, parler d'hier. Médine Girard, c'est une grande victoire pour les syndicats, ce qui s'est passé hier. Ou ce que dit Hélène Bischofsky, finalement, mettre 1 million de personnes dans la rue en France, c'est facile.
Faire un bilan juste sur la journée d'hier, ça n'a pas grand sens. Victoire ou défaite, tout dépendra du dénouement. Disons que c'est un succès d'étape pour, en particulier, pour la CGT. Hier, c'était une très bonne journée pour la CGT et pour Philippe Martinez. Cela dit, si dans 2 semaines, le mouvement s'arrête, plie face au gouvernement, cette séquence-là restera comme un grand échec pour la CGT et pour les syndicats. Donc tout se joue maintenant, en réalité, pour savoir si la séquence profite ou pas aux syndicats. Ce qui est sûr, c'est que, en particulier pour la CGT, là, on est dans le temps fort du quinquennat. Les jours qui viennent, c'est les jours les plus importants du quinquennat pour la CGT. Ils n'ont pas su fédérer autour de la loi Travail 2 au tout début du quinquennat. Ils n'ont pas su profiter du mouvement des Gilets jaunes pour se refaire
la cerise. Alors justement.
Et donc là, il faut y aller maintenant. C'est
justement,
le moment
où je voulais vous dire, les Gilets jaunes, ils sont partis l'année dernière extrêmement, extrêmement nombreux sans les syndicats. Ils ont obtenu 17 milliards. Est-ce que c'est la revanche des syndicats, ce qu'on a vu hier un petit peu,
Olivier? Vous devancez ma réponse. Je pense que c'est quoi qu'on pense de ce mouvement.
Excellente analyse, remarquez. Hein.
Exactement.
Voilà, absolument.
Quoi qu'on pense de ce mouvement, de cette grève sur le fond, et il y a beaucoup à en dire, je crois qu'on peut considérer que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie sociale, le retour des syndicats. Quoi qu'on pense de la réforme des retraites et de leur action, parce que au moins c'est un mouvement pour l'instant social à peu près canalisé, malgré quelques débordements. Et je pense qu'il faut pas mélanger non plus hier les manifestations et les violences. Et d'autre part, souvenons-nous ce qu'on disait l'année dernière, les Gilets jaunes, ce mouvement insaisissable, très rapidement violent, pas d'interlocuteur, pas canalisé, donc en proie à toutes les extrémistes, et on se disait, où sont les syndicats? Là, ils sont là, dans la rue, avec plus de monde au passage. Ils réunissent plus de monde que les Gilets jaunes au plus fort de leur mouvement l'année dernière. Ils sont
3 fois plus.
800 000 ou 900 000 au lieu de 300 000. Mais il est vrai quand même, le bémol, c'est que la journée d'hier, qui est un succès relatif, a moins mobilisé quand même que les manifestations contre les lois Fillon-Raffarin de 2003 sur les retraites déjà, ou la loi Sarkozy-Fillon-Woerth de 2010 également sur les retraites. Donc il y a quand même un petit recul.
Le gouvernement trouve à nouveau, quelques qualités aux corps intermédiaires et aux syndicats en particulier?
Effectivement, on a l'impression que les syndicats reviennent un petit peu dans la danse, une danse qu'ils avaient perdue, en tout cas qu'ils avaient raté le train, puisque les Gilets jaunes avaient monté un mouvement qui a pris assez vite. Après, pour revenir à ce dont vous parlez sur la réforme que voulait absolument Emmanuel Macron, c'est une réforme qui est aussi inspirée, c'est important, du modèle suédois. Sauf qu'en Suède, 70% sont syndiqués, en France, c'est 11%. Et en Suède, c'est le consensus qui prime. Donc on se met autour d'une table, donc le gouvernement, l'exécutif, les syndicats, les patrons parlent pour trouver un accord, parce qu'il faut trouver un consensus et le dialogue est apaisé. Là, on sent bien qu'en fait en France,
pas tellement la culture française.
C'est exactement l'inverse. Donc en fait, cette réforme qui est inspirée du modèle suédois n'est pas du tout possible en France, parce que le dialogue n'est pas apaisé entre les syndicats et le gouvernement.
Tout pouvait se dérouler en France comme une soirée aux informés. Allez, il est 20h40, on va laisser passer l'info et on reprend notre débat. L'info, c'est avec Steven Goyer.
Pas d'apaisement dans le bras de fer sur la réforme des retraites. Édouard Philippe dit vouloir des transitions progressives, mais maintient sa volonté de faire disparaître les régimes spéciaux. Il dévoilera le projet complet mercredi midi. Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye recevront les organisations syndicales et patronales lundi après-midi pour discuter du projet. Et le combat continuera. Réponse presque immédiate du secrétaire général de la CGT Transport, interrogé sur France Info. Fabrice Michaud estime que le calendrier fixé est plutôt contraint. L'intersyndical appelle à une nouvelle journée d'action mardi. La cour d'assises de la Somme a rendu son verdict. Willy Bardon, condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour viol, enlèvement et séquestration suivi de mort. Procès autour de la mort d'Élodie Kulik en 2002. La mémoire des crimes nazis est inséparable de l'identité allemande. Les mots d'Angela Merkel en visite à Auschwitz aux côtés du Premier ministre polonais. Dans son discours, la chancelière a mis en garde contre la montée du racisme et la propagation de la haine. Top départ pour la 33e édition du Téléthon. 30 heures de direct, 30 heures d'appel aux dons pour faire avancer la thérapie génique. Radio France est partenaire de l'événement. Deux options pour donner par téléphone au 36 37 ou sur le site internet téléthon.fr.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
Alors, débat de ce, évidemment, de ce mouvement social. Hélène Plichowski, vous vouliez...
Non, je suis un peu étonnée qu'on parle du grand retour, voire de la victoire des syndicats et d'un grand jour pour la vie syndicale
j'ai
du pays.
J'ai pas dit la victoire. J'ai dit que
le grand retour.
Une bonne nouvelle.
Non, bonne nouvelle.
Bonne nouvelle,
voilà, pardon, ça revient.
Que le gouvernement ait des interlocuteurs.
Pourquoi c'est quand le dialogue même social va si mal en France? Parce que les organisations syndicales, du moins certaines, ne sont plus depuis longtemps des partenaires sociaux, ce sont des adversaires. Qu'est-ce qu'ils demandaient hier? Qu'est-ce que demande la CGT? La peau d'Emmanuel Macron, c'est tout. Donc c'est pas le dialogue qui revient, il a jamais été aussi fermé qu'il n'est aujourd'hui.
Mais il n'y a pas que la CGT, il y a la CFDT, il y a 5 organisations, partout, 6 organisations syndicales.
Oui, mais... Oui, mais bien sûr, il y a d'autres organisations. Tous ne demandent pas la tête. Mais quand même, qui mène la danse? C'est effectivement la CGT qui prend sa revanche, on a tous bien compris. Là-dessus, il n'y a aucun doute. D'accord. Mais pour faire quoi? La CGT, il y a des années qui ne signe plus d'accords nationaux sur la vie sociale du pays. Plus jamais. Ils en signent à l'intérieur des entreprises quand ils sont majoritaires et qu'ils sont certains d'obtenir ce qu'ils veulent. Mais c'est pas ça. C'est parce qu'on a vraiment un personnel syndical et une philosophie syndicale qui est exactement l'inverse de ce qui se passe dans les pays où ça fonctionne bien, parce que c'est du bugne à bugne en permanence. Pardonnez-moi l'expression. Etienne
Girard, vous voulez arbitrer le débat entre Bruno Dib et Plichowski?
Non, il ne faut pas généraliser. La CGT, effectivement, est un syndicat très à gauche. Plus à gauche que les principaux syndicats dans d'autres pays, par exemple en Allemagne. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que la CGT, qui ne cache pas ses idéaux politiques et syndicaux, arrive en tête avec la CFDT lors des élections professionnelles.
Donc doublé par la CPI.
Oui, effectivement, mais il reste dans le duo de tête. Il y a des organisations réformistes. Les gens voulaient que les syndicats soient davantage réformistes, alors ils voteraient davantage pour, par exemple, la CFE-CGC et moins pour la CGT. Si la CGT a cette importance dans la vie syndicale française, c'est aussi parce que depuis, même avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un des principaux syndicats français sur une ligne très à gauche. C'est comme ça.
Marianne Perzadé.
Oui, c'est un syndicat qui est tout le temps dans la confrontation. Ouais. Tout le temps dans la confrontation. Hier, on entendait ces syndicats de cheminots qui allaient sur tous les plateaux de télévision. Moi, j'ai entendu quand même un des syndicats qui disait « Notre but, c'est de bloquer l'économie du pays. L'économie du pays, elle va déjà assez mal comme ça. » Je veux dire, effectivement, ils ne sont pas du tout... Alors, bon, ce n'est pas leur rôle aussi d'être du côté forcément du gouvernement. C'est plutôt d'être du côté des salariés, de défendre le droit des salariés. Mais on a plutôt l'impression qu'ils défendent d'autres droits, en fait. Ils défendent leur petit précaré, leur régime spécial. Il faut qu'on en parle aussi de ces régimes spéciaux. Chacun est en train de défendre son petit précaré, ses acquis qui doivent changer parce que on n'est plus dans la France d'après-guerre. On est dans un pays qui vieillit, on est dans un pays déficitaire où il faut réformer, il faut changer des choses en fait. Et on a l'impression que rien ne peut changer. Et à chaque fois, on est vent debout, on bloque. Alors que les consultations n'ont pas encore commencé, on ne sait pas vraiment ce que va être cette réforme des retraites in fine. Et déjà mardi, il va y avoir une nouvelle journée de blocage.
Je vous signale qu'il y a 650 000 à peu près adhérents à la CGT. Il y a 25 millions de salariés en France. Oui. Et donc, c'est la CGT qui...
Mais c'est plus que n'importe quel parti politique français, il faut aussi le dire.
Mais il n'y a pas que la CGT. Il y a la CFDT, il y a la CGC, il y a les autonomes, l'UNSA, et même la CGT, malgré tout, est un interlocuteur. Encore une fois, comparons avec ce qui se passait il y a exactement un an, le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement cherchait des interlocuteurs. Vous vous souvenez de cette séance à Matignon, où ils ont trouvé deux Gilets jaunes, dont un qui a dû se cacher, l'autre qui a fait l'objet de menaces de représailles. Ils ne trouvaient pas à qui parler. Cette fois-ci,
on
retrouve un mouvement social beaucoup plus classique, c'est vrai. Moi, je ne suis pas du tout en train de défendre loin de là ce que la CGT et les régimes spéciaux. Mais au moins, il y a une discussion qui peut être bloquée, mais ils sont venus, ils se sont vus avec le gouvernement, tous les syndicats ont été reçus. Il y a des interlocuteurs plus ou moins obtus, plus ou moins ouverts, mais le mouvement, les manifs sont canalisés.
Alors, pas de débatteurs obtus ce soir, hein, en tout cas sur le plateau des informés. Il faut qu'on parle tout de même, pardon de vous le dire, mais de l'autre actualité politique du jour. François Bayrou est entendu par les juges, en ce moment même encore, dans l'affaire des assistants eurodéputés du Modem, une audition qui pourra et qui devrait, nous dit-on, lui valoir une mise en examen. On verra ça dans la soirée. Je vous propose d'écouter d'abord Isabelle Florenne, porte-parole du groupe Modem à l'Assemblée. Elle était l'invitée de Jean-Jérôme Bertolus tout à l'heure sur France Info. Vous allez l'entendre, elle est pas du tout, mais alors pas du tout embarrassée par cette affaire. Écoutez.
Une mise en examen est une suite, finalement on verra ce qui sera décidé ce soir, une suite logique de la progression de l'enquête que nous attendons quand même depuis 2 ans et demi maintenant, puisque ces faits remontent en juin. Le démarrage de l'enquête remonte à 2017. On va progresser, mais nous on est soudés. Le parti lui a réaffirmé son soutien. On verra comment les choses avancent. Merci. Dans les semaines et les mois qui viennent.
Bon, Étienne Girard, ce serait grave pour François Bayrou d'être mis en examen ce soir ?
C'est jamais une bonne nouvelle, hein. S'il est mis en examen, faut le rappeler, c'est qu'on considère qu'il y a des indices graves et concordants selon lesquels il aurait commis un délit, en l'occurrence celui de détournement de fonds publics. Il y a meilleure nouvelle dans une semaine politique. Cela dit, François Bayrou.
Cela dit, on en parle beaucoup moins parce que grâce finalement à ce conflit social,
c'est
ça,
vrai. C'est peut-être la bonne nouvelle
pour lui.
Et au-delà de ça, François Bayrou, depuis quelques mois, il s'est fait une raison quant à son destin politique national. Il se fait à l'idée que désormais, il sera surtout un des premiers conseillers d'Emmanuel Macron, mais qui pourra sans doute pas. Il a 68 ans. Faut le rappeler, redevenir ce personnage de premier plan au point de ce qui est le rêve qu'il a caressé à un moment d'être nommé à Matignon.
Plus qu'un moment.
Oui. Il avait même caressé l'idée d'être président de la République.
Ah bah bien sûr. C'est vrai que le préjudice pour sa personne et sa carrière, à mon avis, est pas très élevé parce qu'il est en fin de carrière, c'est sûr. Et
c'est la fin de ce soir. S'il est mis en examen.
Il est en fin de carrière. Donc, ce qui vient d'être dit est parfaitement juste. Donc, il a plus d'ambition politique. Il a commencé à être garde des sceaux. Ça n'a pas duré longtemps, à peu près un mois, je crois, au début du mandat. Oui, c'est ça.
Marquer garde des sceaux qui est mis en examen, évidemment, ça.
Mais je pense que ça a été plus dur à ce moment-là que ça ne l'est vraiment aujourd'hui, parce que ce qui concerne le délit commis, c'est le Modem dans son ensemble, c'est le quatrième, cinquième, je ne sais pas combien, de ceux qui ont été déjà mis en examen.
Il y a Marielle Le Sarnez qui a déjà été mise en examen.
C'est pas Patrick Balkany. Être mis en examen, vous dites, c'est jamais un bon moment, évidemment. Non. Mais quand vous êtes mis en examen pour un fait qui est une affaire de parti politique, on le sait bien, donc l'opinion n'y est pas très sensible, c'est pas ça qui va faire de François Bayrou un voyou dans l'opinion. Non, personne ne va penser ça. C'est sûr que c'est pas grave pour lui, mais ça va pas aggraver son cas. C'est ça que je veux dire. Et effectivement, ça ne peut que accélérer ou en tout cas, on va pas dire enterrer non plus, pardon. On va dire ça marque un peu la fin de sa vie politique. Mais il aura un rôle à jouer, bien sûr.
Bon, alors c'est pas si grave que
exactement.
Ça pour François Bayrou. Est-ce que c'est grave pour le Modem? Vous allez me répondre dans un instant, juste après l'info, Steven Goyer.
Un TGV sur 6, un intercité et un TER sur 10. Pas de franche amélioration côté trafic des trains ce week-end. D'après la SNCF, la circulation sera encore très difficile ce lundi. Édouard Philippe n'entend pas céder. Un système de retraite universel implique la disparition des régimes spéciaux, a expliqué le Premier ministre. Il présentera le projet de réforme des retraites mercredi midi. Syndicats et patronats rencontreront de leur côté Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye lundi après-midi à la veille d'une nouvelle journée d'action lancée par plusieurs syndicats. Plus de 2 millions de ménages recevront leur prime de Noël vendredi prochain. Des ménages aux revenus modestes, des primes de plus de 150 euros pour une personne seule, près de 275 euros pour un couple avec un enfant. L'ONU réclame à l'Iran la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement. Selon son décompte, au moins 7000 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement de contestation le 15 novembre. Un bilan qualifié de mensonge absolu par Téhéran. Deux matchs de Ligue 1 ce soir, à quelques secondes de la fin. Lille mène face à Brest. Un but à zéro, début de la rencontre il y a quelques secondes entre Nîmes et Lyon.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
C'est le dernier thème des informés. Ce soir, on parle donc de François Bayrou qui devrait être mis en examen ce soir. Il est actuellement dans le bureau des juges. Alors Hélène Pilichowski et Étienne Girard nous disaient que finalement, c'était peut-être un peu ce soir la fin de la carrière politique, en tout cas officielle, de François Bayrou. Est-ce que c'est votre opinion, Mariam Pirzadeh?
Alors, on revient toujours au point Macron, mais François Bayrou, j'ai l'impression que c'est aussi le premier caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'il s'était affiché avec Emmanuel Macron, et finalement très vite il a été mis en examen, vous l'avez dit, 5 semaines après. Donc est-ce que le MoDem, déjà, se pose la question, est-ce que le MoDem existe toujours? Parce qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron a siphonné aussi des voix à droite, mais aussi au centre. Donc est-ce que le MoDem ne doit pas se réformer de l'intérieur, cette mise en examen? Alors effectivement, il est maire de Pau, ça va peut-être changer des choses dans 4 mois lors des prochaines élections municipales.
On ne sait pas
s'il
va se représenter. D'ailleurs.
Voilà, ça peut peut-être effectivement changer un petit peu son calendrier électoral, mais est-ce que ça va changer grand-chose pour le MoDem? Je ne suis pas sûre.
Bon, Bruno Diff, quand on est spécialiste de Juppé, on est forcément un peu spécialiste de Bayrou aussi.
Forcément, c'est la même région, et puis c'est deux anciens alliés.
Bon, alors c'est la fin de Bayrou?
Finalement, il arrive un peu à Bayrou la même chose que ce qui est arrivé à Juppé. Il est rattrapé par une affaire de financement politique, moins élaboré que l'histoire de l'hôtel de ville. La fin de Bayrou, non, moi je crois que les conséquences politiques de cette affaire, elles ont eu lieu en juin 2017, quand François Bayrou et Marielle de Sarnez ont été contraints de démissionner à la suite de Sylvie Goulard, dans des circonstances qui d'ailleurs
Trois
membres du gouvernement qui sont exfiltrés.
Qui a provoqué en fait la démission des deux autres dans des conditions un peu suspectes, parce que en fait il y avait d'autres raisons à la démission de Sylvie Goulard. Bon, enfin, on n'a pas le temps de développer ici, mais c'est tout ça est un peu complexe.
Ce qui fait que Sylvie Goulard et François Bayrou sont brouillés maintenant.
Ah oui, ils l'étaient déjà. De toute façon, ils l'étaient déjà avant.
Ils sont pas très nombreux, mais ils arrivent à se brouiller quand même.
Donc, les conséquences pour François Bayrou aujourd'hui, elles sont surtout d'ordre personnel, parce qu'en effet, c'est surtout pour lui, c'est assez infamant d'être mis en examen dans une question de financement, parce qu'il faut pas oublier qu'il a quand même longtemps joué les chevaliers blancs. Il a porté haut les couleurs de la moralité en politique. Il n'a pas jamais manqué de donner des leçons à tous les autres pendant à chaque fois qu'ils étaient rattrapés par des affaires. Et donc, pour lui, c'est quelque chose. Il a porté cette loi, sa brève période où il était garde des Sceaux, il a porté cette loi sur la moralisation de la vie politique. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui était difficile de rester garde des Sceaux. Donc, pour lui, c'est quelque chose, je pense, qui est très difficile et qu'il vit très mal. Et d'ailleurs, vous observez qu'on l'a très peu entendu depuis 3-4 mois. Il y a deux raisons quand on n'entend pas beaucoup François Bayrou ces derniers temps. C'est parce que, bon, il y a cette affaire de mise en examen. Et il y a aussi l'état de ses relations avec Emmanuel Macron, qui fluctue par des hauts et des bas. Alors, quand on n'entend pas beaucoup François Bayrou, c'est que ça ne va pas très bien avec Emmanuel Macron.
Justement, qu'est-ce que pèse aujourd'hui le MoDem dans la majorité?
C'est le deuxième groupe parlementaire.
Oui, d'accord, mais ça c'est sur le papier.
Parce qu'il a très bien négocié son ralliement à Emmanuel Macron pendant la campagne. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de députés. Combien sont les députés?
Ils sont 47. C'est le troisième groupe de l'Assemblée de
deuxième. Si vous avez une question, vous posez à Bruno.
Je sentais
absolument. Étienne Girard,
non, il pèse plus grand chose.
C'est quoi le MoDem aujourd'hui dans l'équation Macron?
Non, le MoDem, déjà, c'est François Bayrou. Bon. C'est-à-dire que le MoDem, ça n'a pas d'existence hors François Bayrou.
Et Marielle de Sarnez.
Non, parce que si François Bayrou prend sa retraite, le MoDem de Marielle de Sarnez pèsera à peu près 0,2% aux élections.
Bon, ben voilà. Donc pour Marielle, là, c'est fait. Là.
Non, mais c'est avant tout François Bayrou. Et bien ça sûr. A une importance parce que Emmanuel Macron ne peut pas totalement s'aliéner François Bayrou. François Bayrou a montré par le passé qu'il était capable gestes de panache quand il n'était pas d'accord avec une personnalité politique. Il a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy et pour François Hollande. Donc ça pèse. On se dit que François Bayrou, un jour, il est capable de prendre un peu la porte et de rompre définitivement avec Emmanuel Macron dans l'absolu. Donc Emmanuel Macron est
Il a un pouvoir de nuisance, c'est ça encore.
Le soigne, évidemment. Ouais. Il garde, même avec cette mise en examen qui l'affaiblit, il garde ce pouvoir de nuisance. Il faut garder François Bayrou, qui reste une personnalité respectée, très connue dans le pays, dans la majorité. Donc, on l'écoute, on prend, et on prend une fois de temps en temps, voire plus qu'une fois de temps en temps, la solution qu'il a préconisée.
Il a un pouvoir de mise en examen.
Oui, oui, il faut rester prudent.
Il n'est pas encore mis en examen.
Oui, c'est vrai.
Mais est-ce que... Il peut très bien ne pas l'être. Parce qu'il n'était pas forcément...
Mis ou pas en examen.
C'est Marielle de Sarnez qui a des...
J'arriverai à poser ma question, pardon, de toute façon, je vous assure. Est-ce que le centre n'a pas déjà été complètement inspiré par... Par La République En Marche.
Oui, c'est
finalement ce
que je disais. Et la République En Marche a siphonné, elle a siphonné les voix à droite et au centre. Aujourd'hui, effectivement, alors on revient à ce qu'on disait au début, mais effectivement, les deux extrêmes, un peu un scénario à l'italienne, c'est-à-dire un parti anti-système, enfin, bon, la France insoumise, et puis l'extrême droite. Mais oui, aujourd'hui, la droite, c'est qui? C'est Emmanuel Macron, c'est La République En Marche, le centre droit. C'est ça. Donc le MoDem, est-ce que je suis d'accord avec Étienne Girard? Est-ce que le MoDem survivra si jamais François Bayrou démissionne? D'ailleurs, il a eu un soutien de taille aujourd'hui. Bernard Tapie lui a conseillé de ne pas démissionner parce qu'il avait fait cette... il avait indiqué que François Mitterrand lui avait dit
qu'il démissionne. Je ne sais pas si c'est vraiment un soutien...
C'est le coup de grâce pour François Bayrou.
Ou si c'est le baiser de l'araignée.
C'est le coup de grâce pour François Bayrou.
François Mitterrand lui avait dit si on démissionne, ça veut dire qu'on est coupable.
Qu'on est coupable. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit très mal les différences entre le MoDem et La République En Marche, sur le fond. Il y a très peu, peut-être une sensibilité un peu plus sociale, et encore, il n'y en a pas. C'est uniquement des raisons historiques qui font que le MoDem existe et sans doute n'existera pas après François Bayrou.
J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer.
C'est l'heure.
Les informer. C'est terminé. On a juste le temps de savoir ce qu'ils feront, ce qui fera la une, ce qui fait la une de votre journal cette semaine. Étienne Girard.
Et devinez quoi, la réforme des retraites 1995-2019 rebelote point d'interrogation. C'est un dossier à suivre.
Et à la une de Sud-Ouest demain, Bruno Dive.
La suite de la réforme des retraites et la déclaration d'Édouard Philippe qui rebat un peu la donne.
Eh bien, on lira donc tout ça dans les gazettes. Passez une excellente soirée. Les informés, c'est terminé. Mais bien évidemment, l'info continue sur France Info.